qu'à partir de maintenant, tout ce que vous dites peut se retourner contre vous. Que les choses soient claires. Maintenant que Arnaud est un avocat,
célèbre.
Célèbre, nous parlons en présence de notre avocat. Alors, bien. Alors, nous n'avions pas complètement terminé le chapitre 33. Mais disons, pour mettre un peu de souffle frais, nous allons commencer le Perek Shloshim Ve'arba 34. Et ça commence sur le chapitre Tet, le verset Kafbet. Eh bien, c'est parti. Vayomer Hashem El Moshe. Donc, Rocher, c'est la combien, ça va être la plaie de Rocher, qui est la combientième plaie, s'il vous plaît.
La neuvième, non?
D'accord. Alors. Une seconde. Alors, voilà. Non, c'est le chapitre Yud, excusez-moi. Le chapitre Yud, verset Kafalef. C'est dans Parashat Bo, pas dans Vaera. Parashat Bo, Pasuk Kafalef. Donc, vous voyez que le Maharal, en vérité, analyse les Makot, mais pas de manière exhaustive. Hein. Il fait un best-of. Donc là, chapitre Yud, Pasuk Kafalef. Vayomer Hashem El Moshe. Et là, il n'y a pas de atra'a de, comment dire, Hashem, Moshe ne vient pas prévenir de sommation. Il n'y a pas de sommation à Pharaon avant la neuvième plaie. Vayomer Hashem El Moshe, ne te yadra al Hashamaim, vi rocher al Eretz Mitzrayim, vayamesh rocher. Vayet Moshe et yado al Hashamaim, vay rocher afela bechol Eretz Mitzrayim shloshet yamim. Lo raou ish et achiv, velo kamu ish mitartav. Shloshet yamim, où le chol bnei Israël aya or bemoshvotam. Dieu dit à Moshe, ne teyadra al Hashamayim, étends ton bras sur les cieux, que soit l'obscurité sur la terre d'Égypte, veyamesh rocher, veyamesh rocher, et que se concrétise l'obscurité. Est-ce que ma traduction « Yamesh Rocher » trouve grâce à vos yeux?
C'est « Mamash voilà. Yamesh ». C'est « Mamash Rocher ».
Yamesh Rocher » et que se concrétise sa mère « Mamash » Menachem Mandel Schneerson. Non, mamash, ça veut dire le que c'est quelque chose qui est une concrétisation, quelque chose qui est mamash, ça veut dire c'est du concret. Hein? Et se concrétise l'obscurité. Faisons Rashi. Veyamesh Rocher, Veyarchir Aleem Rocher Yoter. Mais Rochro chez Laila. Les Rocher chez Laila Yamish Veyarchir Od. Veyamesh Rocher, que s'obscurcisse sur eux l'obscurité plus que l'obscurité de la nuit. Que l'obscurité de la nuit Yamish. Alors, la racine Aleph, même Shin. J'avoue, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Aleph Mem Shin. Mais j'ai un dictionnaire ici assez élaboré. On va voir Aleph Memchin. Alors, évidemment, Emesh, ça veut dire hier, la nuit passée. Emesh, en vérité, ça veut dire la nuit. Emesh, c'est la nuit. Ça veut dire hier. Et ça veut dire hier soir, ça veut dire la nuit. Mais Yamesh Rocher, que devienne, que nuisse la nuit. Du verbe je nuis, tu nuis, il nuit, nous nuissons, vous nuissez, ils nuissent. Que nuisse la nuit, l'obscurité. Que nuisse, ça veut dire. Ça, c'est comme ça Rashi explique. Veyamesh, kemo veyamesh. Oui. Alors, regardez, là, attention, dans 5 secondes, il va y avoir Constantin Haïs et nous allons lui chanter Siman Tov Mazel Tov. 1, 2, il a disparu. Ah, Siman Tov Mazel Tov. Est-ce que tu peux réveiller ton bébé pour nous le montrer, peut-être?
Ah ben, il arrive dans 2 minutes. De toute façon, j'ai pas le choix. Vous allez le voir. Tu peux me l'amener.
Ok, super. Ah, je vois que
monsieur... Mais là, le jour de Rosh Hashana.
Oh non, il est tranquille, là. Il a, comment dire...
Il a son coca frais, là.
Tranquille, quoi. Oui, qu'est-ce que tu dis, André?
Tout va bien.
Tout va bien. Voilà. Alors, ah, il y a mon épouse qui est en train de...
Si tu mets le micro...
Ok, bon, ça va. Alors, à bonne taille. Rashi, Veyamesh, Kemo Veyamesh. Bon, Rashi fait il fait de la grammaire. Veyamesh, pourquoi le Alef disparaît? Mais regardez à la fin du Rashi suivant, au Midrash Agada, Potro Lachon Memachesh Betsaoraim. Le Midrash Agada, donc Rashi vient nous dire au niveau grammatical, Veyamesh, c'est comme Vayamesh Alef Memshin. Aleph Menshin, mais Rashi nous dit Midrash Agada Potro Lachon Memachesh Betsaoraim. Le Midrash explique du langage Memachesh Betsaoraim. Qu'est-ce que ça veut dire Memachesh Betsaoraim?
Il tâtonne.
Il tâtonne, ouais.
Ah, il tâtonne à minuit. Ça fait partie des klalot, des malédictions, où on dit que tu seras en plein midi. Tu tâtonneras pour trouver ton chemin, tellement tu seras perdu. Ah.
Ah.
Oui.
Montre. Ah, petit Simon.
Ça tu veux étudier.
Oui, ça dit.
Oui.
Ah, les gars, vous êtes des vrais gonzesses. Hein.
Ouais. Attends, il est trop mignon.
Attends, le mec. Oh.
Excuse-nous. Hein.
On t'aurait pas fait la fête, t'aurais dit ils sont dégueulasses quoi. J'ai un bébé, pas s'il a perdu. Ces mecs, franchement, qu'est-ce que c'est cette étude de la Torah désincarnée?
Ouais, c'est vrai.
Franchement, dégoûtant. Alors maintenant, on a un truc un peu sympa quoi. Il dit ouais les mecs ils sont sympas, c'est dégueulasse.
Ce que je fais, c'est que je vais couper le son pour pas que vous ayez les petits grognements.
D'accord, ça va.
Ça va.
Cheveux hein.
Ouais.
Au Midrash Agada, Potro, mais la chaune me mâchèche. Donc, me mâchèche, ça veut dire tâter. Chaya kafoul ou mechoufal, ve'av ad chayabo mamash. L'obscurité était repliée et encore repliée et épaisse jusqu'à ce qu'il y ait une épaisseur de l'obscurité. Voilà. C'est ça, Veyamesh, comme ça nos maîtres expliquent.
Rav, j'ai un commentaire de Rav Shimshon de Raphaël Hirsch qui dit que c'est la forme ifil de même Vavshin. Et il arrive à la même conclusion de Palpé, justement, en recitant après les juges.
Même Vavshin. Me machèche. D'accord. Très bien. Alors, le verset d'après. Vayet Moshe et Yado ala shamaim. Moshe a étendu son bras vers les cieux. Vayichosher afela bechol eretz mitzraim shoshet yamim. Il y eut une obscurité obscure sur toute la terre d'Égypte 3 jours. Alors, quelle est la différence entre Rocher et Afela? Je ne sais pas. Dans tout l'intérêt, 3 jours. Regarde Rashi. Mais Rocher Afela Shoshet Yamim. Rocher shel Ophel. Une obscurité de Ophel. Qu'est-ce que ça veut dire? Shelo Raou Ish et Arib Shoshet Yamim. Que pendant 3 jours, oui, c'est-à-dire quelque chose qui est opaque, une obscurité opaque. Ophel, c'est opaque. Donc une obscurité opaque, ça veut dire que tu vois pas ce qui est en face de toi, que quelqu'un n'a pas vu son frère 3 jours. Od shoshet yamim acherim rocher murfal alze shelo kamu ish mitartav. Mais le verset d'après dit « Lo raou ish et arrive. Un homme n'a pas vu son frère. « Velo kamu ish mitartav shloshet yamim » Et un homme n'est pas levé de là où il était 3 jours. On va voir, le Maharal va rapporter le même midrash que Rashi. Il y a eu d'abord « shloshet yamim », un groupe de 3 jours qui était opaque. Et ensuite, encore plus profond, que tu ne pouvais plus te lever. Si tu étais assis, tu ne pouvais pas te lever. Et si tu étais debout, tu ne pouvais plus t'asseoir. Tellement il y a une mamachoute à cette obscurité. Où les chol bené Israël, aya or bemoshfotam. Et pour tous les enfants d'Israël, il y avait de la lumière dans leur résidence. Bien. Maintenant, faisons le Mar. Alors, ne te yatra à la chamaï, étends ton bras sur les cieux, chapitre 34. Amrou rabotinu zirkonam lebracha, nos maîtres disent, dans Midrash Rabbah, a rocher aya sham shisha yamim. L'obscurité 6 jours. Shenema veichosher afel abechol eretz Mitzrayim shloshet yamim lo raou ish et arrive velo kamu ish metar shloshet yamim. Pourquoi est-ce répété 3 jours? Parce qu'il y a eu 2 étapes. Parce que sinon, pourquoi est-ce répété 3 jours? Tu n'avais qu'à dire, il y a eu l'obscurité 3 jours, un homme ne voyait pas son copain, il ne pouvait pas se lever. Pourquoi 3 jours? C'est qu'il y a eu 2 étapes. C'est-à-dire shloshet yamim arishonim lo raou ish et arrive. Les 3 premiers jours, l'homme ne voyait pas son frère. Ou shloshet yamim acharonim. Et les 3 derniers jours, omed lo yachol lashevet. S'il était debout, il ne pouvait pas s'asseoir. Yoshev lo haya yachol lamod. S'il était assis, il ne pouvait pas se lever. Kol maka me shameshet shiva yamim. Alors, dit-il, toutes les plaies, elles étaient actives 7 jours. Et là, il y a 6 jours. Donc là, il y a un blème. Dit-il, Yom Ashiva Aya Alayam. Dirti Vayi et Anan Veachosher. Le 7e jour était sous le bras et il a été actif dans la mer Rouge où il y a eu une obscurité. Bon, ça, c'est le Midrash. Obé Midrash, un autre Midrash, dans le même chapitre du Midrash Rabbah. Mais Echan Aya Achosher. Oui, parce que, regardez, ici, il y a un grand problème. C'est que l'obscurité, l'obscurité, ici, a l'air d'être une réalité palpable. Or, si tu me demandes à moi, je dirais, c'est l'absence de lumière fait qu'il y a l'obscurité. Prenons un exemple. Il y a un intérêt quand même avec le Zoom, c'est que je n'ai pas tous mes bouquins à Henri Murger. Là, par exemple, il y a un livre que j'ai emprunté à la bibliothèque, Les Grands Fonds, d'accord ? C'est notre prochain colloque, Les Grands Fonds et Judaïsme. Alors, Les Grands Fonds, c'est quoi Les Grands Fonds ? Un monégasque comme Arnaud, ça n'a pas de secret pour lui, parce que là, c'est l'Institut océanographique de Monaco qui a publié ce livre. Bien. Alors, à partir de 200 mètres de profondeur, les rayons du soleil n'atteignent plus la mer. C'est ce qu'on appelle les grands fonds, c'est l'obscurité totale. Donc, l'absence de rayons de lumière fait qu'il y a l'obscurité. L'obscurité, ce n'est pas quelque chose en soi. Do you understand? D'où la question bizarre. Qu'est-ce que c'est de cette obscurité palpable? Ça, c'est un problème.
Oui, normalement, c'est l'absence de quelque chose. Or là, on dirait qu'il y a quelque chose qui a été créé.
Voilà.
Quelque chose de spécial qui a été créé. C'est pas juste l'absence de lumière.
Comme on dit, un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Donc, ça veut dire, il manque la lumière, tu es dans l'obscurité. Or là, on voit que l'obscurité est une réalité tangible. D'où la question du Midrash rapportée par le Maharal. Au Ben Midrash.
C'est ce qu'on nous dit dans Bereshit, non ? Quand on dit dans le premier verset, enfin quand on dit après que l'obscurité elle a été bara et que la lumière elle a été yotzer, elle a été formée. Une elle a été formée, l'autre elle a été créée. Ça veut dire qu'elle a une indépendance propre. L'obscurité, le chosha.
D'accord, c'est bien. C'est un bon point.
Il erne la paracha de la semaine, Antoine. Hein,
nous allons clapper. Un petit clapping.
Ah, les mecs.
D'accord, c'est bon. Ouais. Alors, Mehran Aya Achosher, d'où était l'obscurité? Ce qui est étonnant. Rabbi Yehuda et Rabbi Nechemia. Il y a un débat entre Rabbi Yehuda et Rabbi Nechemia. Rabbi Yehuda Omer. Mais recherche le Mahala de l'obscurité très haute, du très haut. Chez Neymar, Yachet recherche Citro, ce vivotav, Soukato. Yachet recherche Citro, ce vivotav, Soukato. Bon, on va voir. Rabbi Nechemia Omer. Mais recherche le guinam. Rabbi Nechemia dit, ça vient de l'obscurité de la Géhenne, chez Neymar, Eretz Aifata, Kemo Ophel, Salmavet, Velo Sedarim. Il y a un verset qui dit, une terre d'épuisement comme l'opacité, au sujet de la Géhenne, le verset dit. Et l'autre, il dit, Yachet recherche Citro. Alors, regardez, si vous me laissez une minute, je vais chercher mon Midrash Rabba pour avoir la référence précise. Une minute. Alors, chapitre Yud Dalet dans Shemot Rabba. Alors, c'est dans Tehilim, chapitre Yutret. Tehilim, Yutret. Voilà, verset 12.
Il achète trop cher, c'est trop.
Il achète trop cher, c'est trop. Se vivotav sous kato. Cheshrat maïm ave shechakim. Minoga negdo oviv avru barad vegachale esh. C'est-à-dire, si trop se vivotav, c'est le pas sous 12, il fait obscurité, si trop l'endroit secret où il se trouve, se vivotav sous kato, autour de lui, des cabanes. Cheshrat mayim aveshakim. Les eaux obscures d'opaques nuages. Donc, yachet rocher citrou, ça veut dire, se vivotav sous kato. Là où se trouve Dieu, et dans une cachette obscure. Il y a sept recherches qui trouvent ce vivotav sous kato.
Mais en quoi ça prouve que ces recherches elles marchent là ? Je n'ai pas compris le lien.
Là, dans ce Tehilim, on parle de la résidence de Dieu.
Ah, donc c'est obligatoirement en haut, d'accord.
Voilà.
D'accord.
Regardez. Vous avez le Tehilim avec vous ?
Ben, je l'ai là.
Ouais. Entre parenthèses, quand vous étudiez Tehilim, je vous conseille, comme instrument de travail, la traduction d'Henri Méchonique. Ah. Vous connaissez ?
Je connais ce nom.
Non ? Ah, Antoine, ça va te plaire, ça. Béni, vous avez déjà entendu parler d'Henri Méchonique ?
Une note tout de suite.
Je vous fais un petit topo sur Henri Méchonique parce que c'est il a fait une œuvre très importante. C'est un poète juif polonais de la région parisienne. Bon, il est décédé maintenant, hein. Un très grand poète. Vous savez, dans les années 60-70, la linguistique était très à la mode. Mais aujourd'hui, notre sujet de discussion, c'est ça, par exemple, vous voyez. Enfin, voilà. Mais dans les années 60, le sujet de discussion, c'était la linguistique. Oui, bon. Autant aux mœurs. Oui, alors. Et un des grands linguistes et poètes des années 60-70, c'est Henri Méchonique. Et je ne sais pas qu'est-ce qu'il avait, ce monsieur. Il avait, qui était juif, il avait un amour du Tanakh immodéré. Il a fait une traduction de la Torah et de certains livres prophétiques. En expliquant que le style biblique, c'est pas le style ampoulé comment c'est les trucs contre les mythes.
La naphtaline.
Ouais. C'est pas le style naphtaline des traductions habituelles. Ouais, ô grand Dieu, glorieux, machin bidule, où tu t'endors. Et il a fait des traductions avec une connaissance de la grammaire hébraïque. Et grâce à son travail sur les versets, il a sorti des théories linguistiques et poétiques qui sont passées à la Sorbonne, si vous voulez. C'était une personnalité extraordinaire. Et j'utilise, quand je travaille, ces traductions. À la fin, il explique, il argumente, à la fin du livre, il argumente pourquoi il traduit comme ci, il traduit comme ça, etc. C'est un instrument de travail magnifique. Alors regardez, on va voir comment il traduit ce verset. Ah oui, alors lui, ce qu'il dit, c'est que la Torah et les livres des prophètes sont dans une langue poétique. Et si tu traduis, il ne faut pas traduire que l'idée, il faut traduire le style. Parce que, comme disait, je ne sais plus qui, je crois que c'est Victor Hugo, mais je ne suis pas sûr, le style, c'est l'homme. Le style, c'est la pensée suit un style. Alors, le chapitre 18 de Tehilim, une seconde. J'y suis. C'est le verset 12. Comment traduit-il ? De l'ombre, il a fait sa cache, autour de lui son gîte, le sombre de l'eau, nuage et nuée. Vous allez me dire, c'est poétique. Mais le verset est poétique. C'est-à-dire, tu vas dire, c'est bizarre. Et le verset est bizarre. Alors maintenant, on reprend. Yachet Rocher Citro, ce vivotav Soukato. Yachet Rocher, il a fait de l'obscurité sa cachette. Maintenant, lui, il dit sa cache, là où il se cache. Voilà. Donc, là où Dieu se cache, c'est l'obscurité. Alors maintenant, la thèse de Rabbi Houda, c'est qu'il y a eu un dévoilement de cette obscurité divine, du lieu ineffable où se trouve Dieu, un dévoilement de cette obscurité qui est une réalité. Rabbi Nechemia dit non, il y a un dévoilement de l'obscurité de la Géhenne. La Géhenne, c'est un verset dans Job, chapitre 10. Eretz afata kemo ofel, une terre d'épuisement opaque. Voilà. Bien. Alors, ce étant, continuons. Biurze, nous allons expliquer du lemar. Qu'il est d'être Rabbi Houda à Rocher, Tamid Moré al Eder. D'après Rabbi Houda, l'obscurité toujours exprime l'absence. Kemo Shaor Moré al Metziut, de la même manière que la lumière exprime l'existence, Ken à Rocher, on passe à la page d'après de l'édition classique, Ken, l'obscurité exprime l'absence. Omipne Shaolam Nimsa Achar Shaya Nedar, étant donné que le monde exista après qu'il y ait son absence, il y a l'obscurité avant l'existence. Zenikra Rocher Aelion. C'est ça l'obscurité supérieure. Un mafsik. Ben Hashem Ilbara ou Ben Aolam. Cette obscurité supérieure qui fait interruption entre l'éternel et le monde. Shenema. Yachet Rocher Citro, il a fait de l'obscurité là où il se cache. Vezé, ki ou idbara nitsri, veolam nimsa achar eider. C'est-à-dire que Dieu est éternel et le monde existe après qu'il n'existait pas. On dit. Yesh me'ain, existant à partir du néant. Donc avant le monde, il y avait le néant. Ce néant fait séparation entre le monde et Dieu. Mais ne yachet rocher citro, c'est ça ce que le verset dit dans Tehilim, il a fait l'obscurité sa cache. Zewaider d'abeg baolam metzad atralato, c'est-à-dire que le néant est lié au monde du fait de son origine. Au mitzad bechinat zot yesh baolam eder mitzad atralato. Du fait de ce début, il y a dans le monde une absence du fait de son début. Bal emitzrim chosher shu'eder haor. Donc est venu en Égypte l'obscurité qui est l'absence de lumière. Bon, c'est facile à traduire. Maintenant, Jonathan Serrero va nous expliquer. Allez, hop là, les baby-boom là. Allez, vas-y là, les baby-boom. Ah oui, entre parenthèses, vous connaissez notre ami Yoran Ben Simon ?
Je connais ce nom-là, oui, oui.
Hein, Yoran, vous connaissez pas Yoran ?
Oui, oui. Non.
Rémi, tu connais Yoran ?
Oui, bien sûr.
Ouais, et ben hier, ils ont un petit garçon.
Zelta, tu as
parlé de ça.
Alors, les baby-boom, là, les baby-boomers, là, vous m'expliquez rapide ce maral sibyllin. Et ça, c'est les thèmes préférés du maral. C'est-à-dire, le maral, on l'a souvent dit, penseur de l'existence. Or, l'existence vient qu'il y a eu absence d'existence. Et il y a eu un dévoilement de cette absence. Dans le monde, il y a une dimension concomitante au monde de néant. Est-ce qu'il peut y avoir d'existence qu'à partir du néant ? Ça veut dire, regardez, j'irai comme ça. Quelqu'un, il est beau, riche et en bonne santé. Tout va bien ? Beau, riche, en bonne santé, tout va bien. Est-ce qu'il existe ?
Sinon, il ne serait pas riche, beau et en bonne santé.
Comment ?
S'il n'existait pas, il ne serait pas riche, beau et en bonne santé.
Moi, j'ai dit, il n'existe pas. C'est à partir du moment où il fait faillite et qu'il devient estropié, qui se dit merde, qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qui m'arrive, pourquoi c'est comme ça. Donc c'est là où il va commencer à se poser des questions et à construire son existence. Avant, il n'existait pas. Il était que par exemple, prenons ça. Est-ce que ce réveil existe. Il n'existe pas. Il n'est même pas. Il est là. Comme dirait notre cher Heidegger, c'est ce qu'on appelle le Dasein. C'est là. Mais Dasein, c'est il est là. Mais il n'existe pas. L'existence est une émergence à quelque chose. Or, il peut y avoir d'existence que s'il y a un anéantissement.
Alors, ça veut dire que la création serait la quête d'existence de Dieu ?
Ben oui.
Alors, c'est ça que ça veut dire.
Tu as compris ce qu'il a dit ? Attends. Il dit oui. Je n'ai même pas compris ce que tu as
dit. Non, mais si c'est par... S'il y a la nécessité du néant pour que l'existence se fasse, alors dans ce cas-là, on a tendance à se dire Dieu qui est le seul être qui n'est pas créé.
Le Maharal Alors voilà, le Maharal, maintenant ça va être un petit peu plus clair. C'est que le monde existe à partir du néant. Il n'y a pas d'existence s'il n'y a pas de néant avant. L'existence, d'ailleurs, c'est si vous voulez, l'existence n'est pas une donnée, c'est une sortie. C'est ce que, regardez, moi je n'y connais pas grand-chose en Heidegger, mais quand j'étais ado, j'aimais bien ces trucs-là. Il dit existence, c'est-à-dire c'est une sortie, l'existence de quelque chose, à partir de quelque chose. Ce n'est pas une réalité, ce n'est pas un fait. Un fait n'existe pas, un fait n'existe pas. L'existence, tu vois, par exemple, par exemple, on est dans une période bénie qui s'appelle la période du coronavirus. Période extraordinaire. Qui nous déstabilise. Je ne crois pas qu'il y ait une personne qui n'est pas déstabilisée. Tout le monde est déstabilisé. Là, par exemple, dans cette maison-là où je vous parle, j'ai des enfants qui devaient voyager, plusieurs. Et leur avion a été annulé, et machin, bidule, ils ne savent pas quand est-ce qu'ils vont voyager, pas voyager. Le résultat, c'est que ma femme, elle fait des repas matin, midi et soir, c'est la colonie de vacances. Mais elle n'est pas diplômée pour ça, je veux dire, elle le fait comme ça. Mais ce que je veux dire, ça veut dire, on ne sait pas où on va, on ne sait pas où on vient, c'est extraordinaire. Ça veut dire, la déstabilisation va faire, par exemple, nous, Yeshiva des étudiants, tous les ans, on fait benoîtement le gala au mois de janvier, voilà, comme des imbéciles, machin. Maintenant, il faut se créer, il faut exister. C'est la déstabilisation qui va faire qu'on va se poser des questions. Tant qu'on ne se pose pas de questions, on n'existe pas. Là-dessus, il y a tous les philosophes, ils ont travaillé. Par exemple, notre brave René Descartes, il a dit. Je pense, donc je suis. Donc c'est pas mal. C'est pas mal dit. Ça veut dire, si tu n'as pas une conscience de ton existence, tu n'existes pas. Quelqu'un qui n'a pas une conscience de l'existence n'existe pas. L'être, c'est une grande question. Et ça, c'est une problématique centrale dans tout le Maharal. Ça, c'est, je dirais, c'est la problématique number one dans le Maharal, c'est l'existence. Alors, maintenant, il dit, mais Dieu a une existence éternelle. Donc, ce qui fait que nous, on n'aura jamais une perception de Dieu, c'est que nous, notre existence vient du néant. Donc, là où réside Dieu, et c'est là où il y a le néant. Puisque le néant fait obstruction entre nous et Dieu. Ça, c'est les mots qu'il dit. Nous, on pourra émerger à l'existence, sortir à l'existence, qu'à partir du moment où on se sera dépatouillé à partir du néant. Mais Dieu n'a pas cette expérience, puisque Dieu est quelque part à une existence éternelle. Donc nous, on n'a pas, on est là où il est, il est caché par le néant. Le néant que nous vivons fait que Dieu est caché par ce néant. On n'atteindra jamais Dieu. Ça, c'est ce qu'il dit. Et donc, le dit que Rabbi Houda dit que l'absence, c'est l'absence. Alors, pour Rabbi Houda, a émergé en Égypte cette absence, et les Égyptiens, ils étaient pétés avec ça. Ça, c'est Rabbi Houda. Alors, on va voir la suite. Veod Yesh Aider Baolam. de plus, il y a une absence, un néant dans le monde. Vézé, qui a brillé chez Nivra, d'Abek Arissa Ronba. La créature créée est collée dans la création un manque, évidemment, puisque être créé fait qu'on est contingent. Il y a une différence entre Dieu qui est par définition et ce qui est créé. Par le fait qu'il ait créé un moment T, fait qu'il est contingent et pas absolu. Donc, si on est contingent, ça veut dire qu'il y a un manque qui nous constitue. C'est le néant. Yesh, Aider, Baolam, Vezé, Kiabria, Shinivra, Dabek, Arisronba. Et collé dans le fait d'être créé, le manque. Kien, Metsiyut, Beshlimut, Agamour. Car il n'y a pas d'existence dans une perfection complète. Avad dabeg babriyut olam bibriyat olam haider. On collait dans la création du monde le néant. Vezeu ginam. Ah, c'est un autre aspect. C'est ça le ginam. Shu haider beria, qui est le néant de la création. Donc là, il va expliquer maintenant le deuxième avis. Il y a l'obscurité supérieure de la création. Pour qu'il y ait création, existence, l'existence vient d'un néant supérieur. Et c'est ça qui, quelque part, fait qu'on ne peut pas atteindre Dieu. Voilà. D'autre part, il y a une autre dimension, c'est que la création étant contingente est dans un manque constant. Ça, si vous voulez, ça c'est le Maharal le développe beaucoup au sujet de Shabbat. C'est que on dit, bon, je l'ai développé dans le désir des désirs, que la Gemara dit celui qui fait le repas de Shabbat est sauvé du jugement de la Guéhenne. Pourquoi ? Parce que nous, on est dans un manque constant. Par exemple, je vais vous dire, je pense que la plupart d'entre vous, vous n'avez pas de problème financier. Vous avez ce qu'il faut sur vos comptes en banque, vous n'avez aucun souci. Bon, mais disons, il y a des gens…
On a pu en avoir, hein, Gérard. Hein.
Comment ?
C'est par période, hein, on a pu en avoir. Hein.
D'accord, mais il y a des gens que peut-être vous avez rencontré des gens comme ça, qui ont des soucis financiers. Je ne parle pas de vous, bien évidemment. Mais il y a des gens, ça existe. Ouais. Mais en vérité, comme toi tu dis, même quelqu'un qui a un compte en banque bien garni, s'il le laisse comme ça, ça il y a des hauts, il y a des bas. Donc, l'humain est dans un manque constant. Ce manque constant va être dépassé par le Shabbat. Parce que Shabbat, on doit considérer qu'on est dans la perfection. Donc celui qui fait le repas de Shabbat, le délice de Shabbat, est sauvé du manque structurel de la création, qui est le Guinam. Voilà, c'est ça ce qu'il dit. Il y a un manque constant. Par exemple, si on ne dort pas, si on ne mange pas, etc., on ne peut pas. On est en manque constant. On a toujours besoin de recevoir, toujours besoin de recevoir.
Ah, juste une question. C'est, si Dieu est dans le néant et donc inatteignable, comment on...
Dieu n'est pas dans le néant. Dieu n'est pas dans le néant. Il est entouré de néant.
Il est entouré de néant. Et... Oui, tout à fait.
La cachette est dans le néant.
Comment on explique la révélation du Arsina et ça veut dire qu'on a enlevé les trois nuages. On a enlevé les trois niveaux d'obscurité. Comment cette rencontre s'explique d'un coup?
Oui, alors le don de la Torah au Sinaï, c'est que Dieu, par la Torah, a donné la Torah et l'humain ne devait pas mourir. S'il n'y avait pas eu le veau d'or, l'humain ne serait pas mort. Donc il y a une dimension de faire participer l'humain d'une dimension pérenne. Effectivement.
Comment ? C'est ça que je veux dire. Il y a un lien possible. On peut s'atteindre mutuellement quelque part.
Quelque part. Bon, c'est vrai. Alors, mais l'Égypte, là on parle, l'Égypte a été submergée par cette obscurité. On va voir. Alors il dit, Kacher et via Kadosh Bochou, Makat Rocher à la Mitzrim, quand Dieu a amené la plaie d'obscurité sur l'Égypte, et via Léem Aider, il a amené le néant, Metzad, qui Bebria, Dabek Eider, Bechisaron, car dans la création est collé le néant et le manque. Le débat entre Rabbi Houda et Rabbi Nechemia, qu'est-ce qui est plus karov d'amener? Qui les mandamar rocher à Enyon karov yoter? Celui qui dit c'est l'obscurité très haute est plus proche. Zemipne kashem il bara ivi aliem rocher, que Dieu a amené l'obscurité à moré al malato, qui exprime le niveau de Dieu, Shionitzri, Ben Ivraim, Achara Eder. Il a amené l'obscurité supérieure, qui exprime le niveau de Dieu, qui est éternel, et qu'ils sont créés après le néant. Le Mandéamar, Min Rocher, Shel Ginam, est celui qui dit de l'obscurité de l'enfer, Shukarov Yoter, El Mitzrayim, Amekamlim, Adbukim, Beginab, Shaginam, Ukarov, El Roshayim, Medaï Bazé. Donc, il veut dire que l'autre, Rabbi Nechemia, pense l'obscurité du Ginam, car ça, c'est plus, comment dire, prompt à venir sur les Égyptiens, car ils sont plus attachés au Ginam. Car le Guinam est proche des impies. Alors, on essaie de décrypter, là, les copains. Alors, la différence entre le Zoom et le présentiel, c'est que le présentiel, je pourrais taper sur les épaules de mes potes en disant, allez les mecs, là, allez Constantin, bouge-toi un peu, là. Voilà. Mais là, bon, ouais. Allez, les copains, là.
Est-ce que la punition, elle vient exprimer la grandeur d'Hachem ou la petitesse des Égyptiens? C'est ça ce que je comprends dans le débat. Enfin,
c'est pas mal, c'est pas mal.
Je ne sais pas à quoi ça nous sert, mais en tout cas, c'est ce que j'ai compris.
Et on a parlé de deux fois trois jours. Alors, c'est pas ça, deux fois trois jours? C'est trois jours d'une obscurité d'un type et trois jours d'une obscurité de l'autre?
Astucieux.
Oui, c'est une idée intéressante. Bon, il ne relève pas ça. Hein. Maintenant, ok, c'est intéressant ce que tu dis, Manu. Il faut creuser, creusons. Marchons.
C'est-à-dire qu'il y avait dans les Makotes, il y avait le dévoilement de la grande de qui est Hachem. Il y avait aussi, on dirait que dans Rocher, il y a...
Oui, allô, à l'huile, comment? On n'entend plus là. Ouais, Manu, on ne t'entend pas. Oui, Manu.
Vous entendez? Oui, je ne sais pas
si. Oui, c'est bon.
Je disais, dans les Makot, il y avait à la fois dévoiler qui est Hachem et punir les Égyptiens. On a l'impression que c'est ça, rechercher le Marla et rechercher le Guinam.
Oui. Est-ce que quelque part, ça vient de Dieu ou ça vient d'eux-mêmes, quoi? Le Guinam, eux, ils sont dans le Guinam. Il faut essayer de décrypter. Essayons de décrypter. Qu'est-ce que ça veut dire que les Rechaïm, ils sont. Regardez, on va essayer de délirer, de dire n'importe quoi. Hein. C'est bien, moi j'aime bien dire n'importe quoi. Vous voyez, par exemple, moi, je suis convaincu, maintenant, je suis convaincu, mais ça n'avance pas à grand-chose, je suis convaincu que Dieu nous envoie des makotes. Première makote, le dérèglement climatique, comme on a vu dans la parashat Bereshit, que Rachid dit que, à la fin de parashat Bereshit, qu'à l'époque de Enoch, les océans sont montés et ont submergé un tiers des terres habitées. Vous connaissez ce Rashi? Oui, là, les amis. Rashi, une seconde. Rashi. Je vous donne la référence parce que c'est très important. Hein. À la fin de Parashat Bereshit, c'est sur le verset chapitre Vav, verset Dalet, Rachid dit qu'à l'époque de Enoch, l'océan a monté, et parce que Enoch, c'est lui qui a inventé l'idolâtrie, l'océan a monté et a noyé un tiers des terres habitées, et la génération du déluge n'a pas été impressionné par ça pour apprendre de là, et ils ont continué encore de plus belle. Alors moi, je vous dis, qu'est-ce que c'est mon impression, hein, comme ça entre nous, que première, le dérèglement climatique est une première maca, et on plutôt que s'interroger au niveau spirituel, on règle ça en mettant les bouteilles en plastique dans le conteneur jaune et les bouteilles en verre dans le conteneur en verre. Et on résoudra les problèmes spirituels de l'humanité. On ne mange plus de viande parce que ça pollue les gaz d'échappement des vaches polluent et amènent des problèmes. Alors maintenant, il y a un deuxième maca, une déstabilisation internationale. On ne sait même pas qu'est-ce qui se passe, où ça va, où ça vient. C'est extraordinaire. Bon, mais grâce à Dieu, on a trouvé la solution. Voilà, solution, hein, c'est joli. Trouver la solution à cette maca. Bien. Alors, maintenant.
On est qu'à la deuxième, là. Ça va être quoi, les 8 autres?
Bon, c'est déjà pas mal.
Ouais.
Alors, passe.
Maintenant, nous, on est déstabilisés. Cette déstabilisation, est-ce qu'elle vient? Ça veut dire, nous, on a du mal à exister. Alors, il paraît que Zoom, évidemment, prend de l'ampleur, mais il paraît que Netflix, tous les trucs pour oublier, mes amis m'expliquent comme ça quand je discute, que tout ce qui est pour oublier le problème, les jeux vidéo, ça enfle énormément parce que il faut remplir notre vide. Mais où c'est? Est-ce que c'est un vide? Je reprends ce que tu as dit, Manu. Est-ce que c'est un vide intrinsèque, en vérité, nous avons un vide, ou bien c'est Dieu qui nous déstabilise par il nous met en face de « existe, mon ami, existe, essaie d'exister, mais on est en face d'une incapacité d'exister parce qu'on n'est pas Dieu ». Est-ce que c'est le déphasage qui vient de Dieu, ou bien est-ce que c'est le déphasage qui est en nous En vérité, c'est le vide qui est en nous, parce que nous, on est proche du Guinam, on est des êtres en manque constant. Par exemple, il y a un truc très intéressant. Moi, je constate que chacun son truc. Il y en a qui aiment bien s'acheter, par exemple, les nouveaux iPhone. Il y a un nouveau téléphone qui va sortir. Moi, je veux le téléphone up-to-date. Ou bien, je veux les nouvelles Nike. Ou bien, je veux, il y a la rentrée littéraire, les nouveaux livres. En vérité, dans ma bibliothèque, j'ai plein de bouquins que je n'ai pas lus, mais j'aime bien acheter des nouveaux bouquins. Qu'est-ce que ça change? Lis déjà les vieux bouquins que tu n'as encore pas lus. Mais on a besoin de se donner une existence en ayant du nouveau. Il y a un nouveau film, il y a un nouveau DVD qui a sorti, il y a un nouveau, disque de Tartempion. Voilà. Donc, c'est nouveau. Ça veut dire que ça remplit notre vide. Ça, c'est le guinam, notre guinam, qu'on est en manque. Et, ou bien, il y a un déphasage. Qu'est-ce qui est là, en Égypte, il y a eu la neuvième plaie, ça a été un remise en question de l'existence des Égyptiens. Mais où est-ce mis en est-ce que c'est le dévoilement de l'existence de Dieu qui nous met en face de notre relativité et de notre que l'existence chez nous, c'est une conquête et ce n'est pas une réalité, une conquête. Mais est-ce qu'on est capable de cette conquête? Ça, c'est Rabbi Yehuda. Ou bien, est-ce que non, c'est notre réalité en tant que telle, elle est en manque tout le temps, qu'on a besoin d'exister, indépendamment d'une confrontation. Me semble-t-il, c'est ce qu'il dit. Qu'est-ce qui est plus judicieux? C'est la réalité en tant que telle, c'est Rabbi Nechemia, ou bien c'est le dévoilement de l'infini de Dieu qui nous met en face de notre incapacité d'exister. Vraiment... Vous voyez, par exemple, quand moi j'étais confronté à ça, quand on est en face d'un tzaddik ou d'un talmid chacham, on est déphasé. Ça nous remet en question, parce que nous, on a du mal à se positionner dans l'existence. Et quand tu vois quelqu'un qui arrive à se positionner, c'est dur à assumer. On n'a pas envie de fréquenter quelqu'un qui arrive à se positionner dans l'existence, parce que ça nous remet en face de nos difficultés qu'on a à se positionner. Tu pourrais dire, il y en a qui disent, regardez, moi c'est normal que je sois un imbécile. C'est normal. C'est normal. Parce que à notre génération, tu n'as pas des grandes personnalités comme le Baal Shem Tov ou le Gaon de Vilna ou Rabbi Moshe Chaim Luzzatto ou Rashi ou Maïmonide. S'il y avait à notre génération le Baal Shem Tov, moi, je ferais tchouva. Mais bon, à notre génération Torah Box, bon, ça va. C'est normal que je sois un imbécile. Non, ce n'est pas vrai. S'il y avait le Baal Shem Tov, tu le fuirais. Tu le fuirais, le Baal Shem Tov. Parce que si tu étais en face de Baal Shem Tov, ça te remettrait trop en question. Ça te remettrait trop en question. Et tu aurais envie même d'être antisémite. Je vais le buter, moi, le Baal Shem Tov. C'est imbécile. Moi, j'ai rencontré le Baal Shem Tov. Quel imbécile. Franchement, c'est le... Je ne veux pas dire des gros mots, mais franchement, ça me vient naturellement. Franchement, ça, je ne vous conseille pas. Hein. C'est vraiment un nul, ce Baal Shem Tov. Pourquoi? Parce que si tu fréquentes quelqu'un que le Baal Shem Tov, ça va te remettre en question. Et moi, je ne veux pas. Je ne veux pas le voir, ce Baal Shem Tov.
Mais le Mashiach, c'est cette dimension-là?
Comment?
Le Mashiach, c'est cette dimension-là?
Je ne sais pas. J'en sais rien. Mais y a Rav Yosef, il dit que vienne le Mashiach et que je ne le vois pas. C'est une Gemara dans Masechet Sanhedrin. Je ne veux pas le voir. C'est sûr. Alors là, il va y avoir la sortie d'Égypte. Il y a Dieu, il se révèle petit à petit l'existence de Dieu. Mais les gens, ils paniquent. Il y en a, ils disent, ouais, si je voyais Dieu, peut-être que je deviendrais quelqu'un de bien. Pas du tout. Pas du tout. Ça, c'est la première dimension. Mais il y en a qui disent, que Rabbi Nechemia, il dit, pas besoin qu'il y ait cette confrontation. Déjà, nous, on est dans l'obscurité. Les Rechaïm sont dans l'obscurité. Ils ont toujours besoin de quelque chose. Ils sont dans un manque constant. Donc, qu'est-ce qui est plus à même de dire dans cette Maka ? Est-ce que c'est le dévoilement de Dieu ou c'est la réalité même des choses ? Ok.
Quelle est la différence vraiment entre... Comment je suis pas sûr de comprendre la différence entre les deux. Ça veut dire que est-ce que finalement c'est pas quelque un peu la même chose? Est-ce que c'est la confrontation qui nous fait comprendre notre manque ou est-ce que dans tous les cas le manque existe, que ce soit par la confrontation ou intrinsèquement?
Regardons aujourd'hui, qu'est-ce qui nous perturbe le plus dans le confinement, dans le couvre-feu, ou je ne sais pas quoi? Est-ce que c'est le fait qu'on ne puisse pas aller au resto, qu'on ne puisse pas aller voir des copains, aller en boîte, hein, n'est-ce pas, Béni?
Oui, oui, bien sûr.
Qu'est-ce qui nous travaille le plus? C'est qu'on ne peut pas aller au resto, voir les potes, voilà. Ou que non, qu'on ne sait pas, on est déstabilisé, qu'on est déstabilisé. C'est deux choses différentes. Il y a un manque par la réalité des choses. Et un autre par une confrontation, par une déstabilisation. C'est deux choses différentes. C'est vraiment deux choses différentes.
Mais la confrontation, elle ne crée pas nécessairement ça, elle révèle le manque. Elle n'est pas nécessairement créatrice du manque.
Oui, mais elle révèle un manque d'existence.
C'est un manque de conscience de soi, dans ce cas-là. C'est un manque de conscience de sa propre relativité. Ça veut dire, je n'ai pas conscience du manque en moi, et c'est la confrontation qui la révèle, mais finalement, le manque, il est quand même là.
Non, ce n'est pas le même. Non, qu'est-ce c'est que vous en pensez, les copains? Tu vois, par exemple, là, je dis un exemple, parce que c'est un exemple qui est simple. Chaque année, nous, on fait le gala de la Yeshiva. Bon. Alors, bon, des fois c'est bien, des fois c'est très bien, des fois c'est un peu moins bien. Bon, ok. Mais là maintenant, on doit trouver autre chose. Enfin, je ne sais même pas dans quelle direction. Donc là, ou alors il y en a qui vont dire, moi je suis déprimé, je ne vois pas d'issue, on va se casser la gueule. Ça va être... Bon, c'est la faillite, les mecs, ça va, c'est la faillite. C'est foutu, quoi. Alors, c'est quelque chose qui vient de l'extérieur, somme toute. C'est un stimuli extérieur qui nous montre qu'on doit être imaginatif, on doit se remettre en question, on doit se poser
la question. Alors, il n'y a pas de refus de la remise en question. Je ne comprends pas cette idée du refus de la remise en question. On se remet en question tout le temps, par toutes les circonstances, par les contacts, par l'envie qu'on a de progresser. C'est en permanence une remise en question. Vous expliquiez tout à l'heure qu'on n'a pas envie, on a peur de cette remise en question. Moi, je ne crois pas qu'on ait nécessairement peur de la remise en question.
On vote. au vote.
Une question de vote, mais c'est une question. Notre vie est quand même une remise en question permanente, celle de mes parents, la mienne, venir en Israël, ne pas venir en Israël.
Oui, d'accord, mais béni, c'est parce que tu es juif, tu vois. Par exemple,
Toi aussi.
Non, mais toi,
je te toi dis, aussi.
Mais toi, par exemple, là, il y a eu, dans l'humanité, il y a eu deux Jésus. Il y a le Jésus historique, il y a 2000 ans. Et le Jésus aujourd'hui, c'est Boris Cyrulnik.
Si tu veux.
C'est quoi ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a apporté le nouveau évangile. Il a dit, tu as vécu un traumatisme, c'est formidable.
Construire. Tu as la résilience.
La résilience. Pourquoi il fallait que ça soit un Feuge qui lance cette idée qui est le quotidien de tout juif ?
Surtout un Ashkenaz, je précise.
Ouais, mais pourquoi il fallait
polonais.
Pourquoi un petit Feuge qui lance cette idée qui est ce que nos parents ont vécu, ce que nos grands-parents ont vécu, ce qui est notre quotidien. Oui. Et pourquoi il ne s'appelle pas Christian Dupont qui a lancé la résilience ? Pourquoi ? Explique-moi. La résilience, c'est rien de spécial. D'ailleurs, lui-même, il a dit, quand il était gosse, il était paumé, et il a vu dans la Bible que la femme de Lot, Lot, les anges lui ont dit, ne te retourne pas, sa femme, elle s'est retournée, elle est morte. Donc il dit, il a compris, il faut avancer. Mamache, le mec, il le dit, Boris Cyrulnik, il le dit, le mec.
Oui, mais on ne peut pas refuser son option.
Comment ?
On ne refuse pas son option, c'est son option qu'on vit tout le temps.
Livre sur livre, et il se fait du fric sur tous les gens qui n'arrivent pas à le faire.
D'accord.
Il y a des gens, ils ont des épreuves et ils coulent. Comment ça se fait ? Mais sois résilient.
Tu as raison. Là, tu as raison.
C'est le nouveau Jésus. Il a amené l'évangile. En vérité, il a amené du judaïsme. Il n'a rien de spécial. Il a amené du judaïsme. Alors, c'est vrai, nous, on vit ça. On a été élevés comme ça. Nos parents, ils ont vécu ci, ils ont vécu ça. Ouais, comme disait Enrico Macias. J'ai quitté mon pays, j'ai quitté ma maison. Ouais, d'accord, il fallait se reconstruire. Ok, il fallait se reconstruire. On est des immigrés, on s'est reconstruit. On est des immigrés. Nous, c'est bien, on est des immigrés. Mon père, c'était un immigré, il est né dans la misère. Il a fait toute sa médecine, il n'avait pas de chambre. Jusqu'à son mariage, il n'avait pas de chambre. Il était dans le petit magasin de mon grand-père. Le jour de son mariage, il était déjà médecin. Le jour de son mariage, il est allé au bain public. Là, tu sais, les bains publics où tu as tous les rebeux qui vont là-bas, mon père est allé pour son mariage au bain public. Voilà. Il est devenu un grand médecin. Ouais, c'est ça. Il n'a pas dit, ouais, je suis un immigré, pourquoi on est immigré ? Il a dit, j'en ai rien à foutre. Sa langue maternelle, c'est le yiddish. Il est venu en France, il ne savait pas parler français. Okay. Et comme tous, ils sont nommés les premiers de la classe. Voilà. Après, on dit, ouais, on est des immigrés. OK. D'accord. Mais ça veut dire, c'est vrai, mais y en a, ils n'arrivent pas. Et même, il y a des Feuches qui n'arrivent pas. Hein. Même, il y en a, ils arrivent dans un domaine, ils n'arrivent pas dans un autre domaine. Ils arrivent à être résilients dans une chose et pas dans autre chose. On n'est pas résilients à plein temps. voilà. Et même les Chachamim disent que après la chute de Sodome et Gomorre, Lot, il voulait pas retrouver Abraham, parce que Rashi explique, à Sodome, les gens le prenaient pour un type vertueux, mais s'il se retrouvait à côté d'Abraham, il se rendait compte qu'il est un pauvre type. Donc il a dit, je ne veux pas d'Abraham, je ne veux plus entendre parler d'Abraham. Là aussi, on est d'accord de se remettre en question, mais...
Là, on fait ça tous les jours.
Mais modérément.
Non, on ne supporte pas de se mettre à côté des gens plus intelligents que nous. Hein. Enfin, oui.
Intelligents ou
Mais ça n'est pas vrai, on se met devant des gens plus intelligents que nous. La preuve.
D'accord, oui, bah, je prends un cours de Torah, après je repars, et voilà. Mais je ne supporterai pas de vivre à côté de Rav Zizek, ça me saoulerait.
Moi non plus, je ne peux pas.
Moi non plus.
Ouais, c'est une tannée, je suis tout le temps avec lui, 24 heures sur 24, des fois il y en a marre. Et en plus, je me tape tous ses cours.
Et là,
non, les mecs, je me tape tous
les cours. Là, c'est des chivas, quoi. C'est un mec qui est là.
C'est Mamash. Il est là. Bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, c'est... Moi, je sais que quand j'ai vécu à côté de mon maître, ça me remettait en question. C'était en vérité très difficilement viable. Parce que, donc, je sais pas, nous on fait la prière d'une certaine manière. Voir quelqu'un qui fait la prière vraiment avec Kavana, qui s'investit dans la prière, t'as l'air d'un imbécile.
C'est vrai, mais pour prendre un billet un peu idiot, par exemple, pour prendre une parallèle un peu bête, un sportif par exemple, préfère toujours être confronté à quelqu'un de plus fort que lui pour s'améliorer, pour essayer de monter en rang. Moi, je pense que ce n'est pas tout à fait comme ça. Moi, je pense qu'on a plutôt une tendance à vouloir se confronter à plus intelligent. Et sinon, je ne viendrai pas à ton cours.
Non, c'est trop gentil ce que toi tu dis.
Mais on ne se fait pas un 3.
Je le pense, quoi.
Non, tu vois, je ne sais pas, moi, tu as un mec qui fait de la guitare, tu vois, tu as un guitariste, mais il se trouve à côté, je ne sais pas, moi, d'un dieu de la guitare, à côté de, je ne sais pas, moi, Eric Clapton, quand Clapton il avait 30 ans. Ouais. Le mec, oui. Il dit, ça le déprime. Il dit, moi, je ne veux plus faire de la guitare. Je veux faire de la guitare. Ça m'a dégoûté de faire de la guitare. Je vois le mec...
Oui, certains sont déprimés, d'autres deviennent des plus grands guitaristes que Clapton. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça, du tout.
J'ai compris que je n'étais pas d'accord. Mais c'est difficile, la confrontation est difficile.
Tout ça pour dire
qu'il y a deux modes de... Il y a, par exemple, nous ici, on est, je prends cette histoire du coronavirus qui est quelque chose qui est une remise en question. On ne sait pas où on va. C'est une remise en question. Moi, franchement, vous êtes très sympas, les mecs, mais ça me saoule. Zoom, ça me saoule. Ce n'est pas vous qui me saoulez, c'est Zoom, ça me saoule. Mais je ne sais pas comment vivre ça. Je ne sais pas comment vivre ça. Je n'arrive pas à me projeter. On peut faire un truc sympa, mais je n'arrive pas à me projeter. Personne n'arrive à se projeter. Donc, c'est difficile. Ça, c'est une confrontation par l'extérieur. Et d'un autre côté, comme on est en confinement, on a des besoins qui ne sont pas assouvis. Ça, c'est le guinam. C'est pas la même chose. C'est un manque qui est en nous. Un manque est par la confrontation et un manque par nous. Là-dessus, le débat, dit le Maharal de Prague, c'est pas le même manque. C'est pas la même chose. C'est-à-dire, dans la... comment dire ? T'as des gens, ils ont des problèmes. Il y a des gens, ils ont des problèmes. Prenons un exemple. La plupart des gens, quand ils ont un problème, juif ou non juif, quand ils ont un problème, ils noient le problème avec de l'alcool. Ils noient le problème avec l'alcool. Il y a beaucoup de gens, c'est comme ça. Vous n'allez pas me dire que ça n'existe pas. C'est toute la planète, elle est comme ça.
Justement, j'allais me verser un petit... Non, je suis sérieux. Hein.
Moi aussi, j'allais me verser un verre d'arak.
Non, un petit verre, ça, c'est rien. Mais il y en a qui se vident de toute une bouteille. Mais justement, regardez, là, c'est très intéressant. On est entre nous, là. Pourquoi je vous parle de Clapton ?
Tu ne vas pas jouer de la guitare.
J'ai vu un film sur Clapton, là.
Ouais.
Vous connaissez ce film ?
Oui.
Ouais.
Regardez juste.
C'est bouleversant. très bouleversant. Il n'a pas connu son père et il a Clapton. Il a jusqu'à l'âge de 9 ans, il était élevé par ses parents. Et à 9 ans, il a découvert que ses parents avaient été ses grands-parents. Et que sa mère, à 16 ans, l'a eu et qu'elle s'était tirée et qu'elle l'avait abandonné. Donc, il ne savait pas qui est son père et abandonné par sa mère. Un peu plus tard, il rencontre sa mère. Sa mère lui dit « Bon, dégage, tu ne m'intéresses pas, au revoir. » Et ben, c'était un alcoolo et un drogué. Très intéressant, extrêmement intéressant. Bon, c'est vrai que le mec, il avait tellement dans les tripes, tellement de harne dans les tripes, qu'il en a sorti. Il pouvait être aussi souffrant qu'un noir américain, qu'un bluesman. Mais le mec, c'est ça le film, c'est comment le mec, il a réussi à mettre un pied dans l'autre. Eh bien, il n'arrivait pas. Il n'arrivait pas, le mec. Comment? Il noyait dans l'alcool. Ça veut dire, c'est ton existence, et c'est, on a du mal à tenir debout. Comment j'existe? Comment je fais un choix? Comment je mets un pied devant l'autre? Ça, c'est, comment dire, l'humain, en général, il noie cette question. Donc là, Benny, c'est un débat, hein, on n'est pas d'accord.
Bien sûr.
Ouais, on n'est pas d'accord, c'est un débat. Je pense que la plupart des humains, dans une confrontation à leur existence, parce qu'on a besoin d'être confronté, d'être conforté, comme disent des contemporains de monsieur, nos chers Beatles, all you need is love. All you need is love. Oui, évidemment, tout ce que tu as besoin, c'est d'amour. C'est quoi d'amour? C'est que oui, mon chéri, tu existes. Oui, mon chéri, ce que tu fais, c'est bien. Oui, mon chéri, tu es le meilleur. Oui, mon chéri, tu as raison. Oui, mon chéri. Voilà. All you need is love. Maintenant, si quelqu'un, il n'a pas ça, alors, existe-t-il?
Il y a quelque chose de paradoxal
alors,
ici.
Alors, l'humain, et c'est pour ça qu'il y a des addictions. Il y a des addictions parce que quand quelqu'un il est angoissé, il bouffe.
Merhila, il y a quelque chose de très, très paradoxal ici. C'est que quand le type, il boit, ce qu'il fait précisément, c'est fuir son existence. Quand quelqu'un commence à boire, ce qu'il veut, c'est déconnecter de la réalité. D'accord ? La même chose, je pense, avec la plupart des addictions. Il veut se plonger dans quelque chose qui lui occupe entièrement l'esprit, au point qu'il n'est plus du tout connecté avec la réalité dans laquelle il est. Et c'est exactement fuir l'existence. C'est-à-dire, il ne veut pas exister à ce moment-là.
Donc, il ne veut pas se poser la question de l'existence. Il ne veut pas se poser la question de l'existence.
Ah bah c'est ne pas exister. Pas
confronté.
On en revient à ça. Ne pas se poser la question de l'existence, c'est ne pas exister. Je ne veux pas exister maintenant. Je veux m'oublier. Et donc, en fait, en voulant fuir cette angoisse du vide et de la non-existence, finalement, il plonge dedans. Il y a quelque chose d'un peu paradoxal.
Donc, c'est peut-être plus complexe que ça. Tu as raison de dire qu'il fuit l'existence dans l'alcool ou dans la drogue, mais si on reprend l'exemple de Clapton, il n'y a que drogués et alcoolisés qui parvenaient à monter sur scène. Donc, il se créait une autre existence. Elle était vitale pour lui.
Ouais.
Bon, c'est très complexe.
C'est un sujet très, très important. C'est très, très important.
Oui, mais pour le coup, ce n'est pas son existence à lui.
Je suis d'accord avec toi.
Ce n'est pas lui, ce n'est pas sa vie à lui.
Oui, mais il a l'impression qu'il existe.
Mais qui peut définir quelle est sa vie à lui?
Il a l'impression qu'il existe.
Il a cette impression. C'est peut-être une illusion. La drogue est certainement une illusion.
On est à l'extérieur. On est à l'extérieur. Mais lui, il a l'impression qu'il existe. Là, je vais vous donner un exemple. La semaine dernière, j'étais avec mon fils Neria, on marchait dans la rue, Il y a un alcoolique qui avait la tronche d'alcoolique. Il se regarde dans la vitre d'un magasin, il se regarde, il dit, je suis quand même beau gosse. Le mec, il avait la tronche pétée, vraiment la tronche, vraiment complètement pétée. Il se regarde, mais c'était beau, ça, je l'ai trouvé. Le mec, il était content, mais il existait. Il existait. Ah, il se dit, ah, je suis beau gosse. Hein. Il était content. De l'extérieur, tu voyais le mec, il était pété. C'est intéressant. Bon, tout ça pour dire que cette thématique, c'est deux confrontations. Il y a une confrontation extérieure et non, ce que je voulais dire, et on va avancer, c'est qu'il y a une confrontation dans la déstabilisation. La déstabilisation, j'ai pu... Est-ce que j'existe ? Ça, c'est la confrontation à l'existence de Dieu. Voilà. Ça, c'est Rabbi Yehuda. Rabbi Nechemia lui dit, c'est une autre. C'est, on constate aujourd'hui que on est en manque parce qu'on a besoin de remplir notre vide. C'est pas on a besoin d'exister et qu'on n'arrive pas. C'est on a besoin de remplir notre vide. Remplir notre vide, ça c'est on remplit notre vide avec des choses nouvelles, des objets nouveaux, des expériences nouvelles. Ça, c'est le guinam. Le guinam, c'est on remplit notre vide. C'est pas la même chose. L'un, c'est la difficulté d'exister, et l'autre, c'est le vide intérieur. C'est deux choses. Là,
en quoi l'étude de la Torah, ce n'est pas remplir du vide ?
Par exemple.
Parce que pour moi, c'est ça. Une partie, peut-être, en tout cas.
Je sais pas. C'est une bonne question. Je sais pas.
Mais on peut quand même pas remplir son existence que par du vide négatif, que par de l'alcool ou de la drogue. On peut trouver quelque chose de plus positif. Par exemple, l'étude, comme il vient de dire.
Constructif. Ok. Alors, on va continuer. Alors, maintenant, le Maharal va analyser les versets de Makat Bechot. Donc, c'est un peu rapide. Hein. On aurait peut-être aimé qu'il soit un peu plus prolixe. Bon. Ensuite, on revient dans Parashat Bo. Alors, regardez le chapitre Yud Aleph dans Shemot. Vayomer Hashem el Moshe, od nega echad avi al paro ve'al mitzrayim, achachken yeshalach etrem mize, yeshalcho kala garesh yigaresh etrem. Alors, je retiens de ce que nous venons de voir, c'est qu'en vérité, la neuvième plaie, avec les explications de Rabbi Yehuda et de Rabbi Nechemia, c'est quand même un aboutissement, c'est un dévoilement quelque part du néant structurel de l'Égypte, soit d'une manière, soit d'une autre manière. C'est ce rocher. Et on avait vu la dernière fois, ça fait pas mal de temps, puisqu'on avait étudié du Tomer de Vora les deux dernières fois, donc ça fait pas mal de temps, que et kol magefotai, le summum de toutes les plaies, c'est makat bechorot. C'est pas seulement le summum, mais on pourrait dire toutes les plaies, c'est makat bechorot. Makat bechorot, c'est le but de toutes les plaies. Mais la neuvième, c'est la préparation ultime avant le dévoilement véritable qui est makat bechorot. Comme le Maharal nous avait dit que Hachem avait dit à Moshe avant tout ça qu'il va y avoir que Beni Bechori Israël, mon premier-né c'est Israël, et le dévoilement que mon premier-né c'est Israël, ça sera par Makat Bechorot. En vérité, il n'y a que Makat Bechorot. Et Kol Magefotai, c'est Makat Bechorot. Mais pour ça, il fallait une préparation. Et l'étape ultime de la préparation, c'est Makat Bechorot, qu'on vient de voir. Alors maintenant, il va y avoir, Dieu dit à Moshe, encore une plaie, j'amènerai sur Pharaon et l'Égypte. Après, il vous renverra d'ici. Keshalcho Kala, comme il renvoie tout, Garesh, il vous refoulera. Daber, na, beozne, aham, veshalou, ish, metreou, vesha, metreouta, kli, kesef, ou klezav, parle, s'il te plaît, aux oreilles du peuple, et que chacun, chaque homme, demande de son ami, et chaque femme emprunte de son ami, des objets en argent et des objets en or. Alors, on avait déjà une fois, effleuré la question, c'est que comment après toutes ces plaies, on peut parler qu'un juif va demander à son ami égyptien des objets. Rachid dit que les Égyptiens ont été pris d'affection des enfants d'Israël. Malgré toutes ces plaies, ils ont aimé les enfants d'Israël. Ok ? Vaïten Hachem, c'est ce que le verset dit. Vaïten Hachem et Trenam Bene Mitzrayim. Dieu a donné la grâce du peuple aux yeux des Égyptiens. Gamaïch Moshe Gadol Meod Beretz Mitzrayim. Et aussi, Moshe était très important dans la terre d'Égypte. Bene Avde Paro ou Bene Aham. Comment vous expliquez ça? Qu'après toute cette. L'Égypte est en déliquescence absolue, ils ont souffert. Tout le pays est complètement ravagé et les Égyptiens aiment les enfants d'Israël.
Incompréhensible.
Comment ?
Incompréhensible.
Impossible.
Impossible, à ma droite, à ma gauche.
Non, c'est comme un mec complètement... comme un drogué qu'on va chercher pour le mettre en taule. Généralement, ils sont soulagés, ou les dealers, ils sont, on les amène en prison, ils sont soulagés d'un truc, en fait. Je ne sais pas comment vous dire. En fait, ils sont à plat, mais ils sont délivrés de quelque chose.
Ouais, c'est intéressant ce que tu dis.
C'est qu'ils sont, c'est comme le joueur qui est complètement addict et qui a perdu son dernier sou. Et j'avais lu un truc comme quoi c'était un moment de grâce pour eux. Ils étaient délivrés d'un truc. C'est que en fait, on a mis l'Égypte à plat et ils nous remercient pour ça, en fait.
Non, mais c'est marrant parce que c'est ce que tu dis. Il y a X années, il y avait un ami à moi qui s'est retrouvé en tôle. Je suis allé le voir là-bas à la santé, à la prison de la santé. Il m'a dit, j'ai débarrassé de mes soucis. Il n'a pas aimé, Béni, il n'a pas aimé.
Si, si, beaucoup, c'est comme celui qui fait faillite. Il dépose son sac de pierre et il est libéré. Ouais,
mais c'est à un moment donné, il y a un switch, quoi. Il y a un truc.
Absolument.
C'est comme le mec.
La prison, elle le traite bien, quoi. Parce que...
Ouais, il faut que ça soit quand même.
Ils sont plus maîtres de leur vie, de leur destin, quoi. Ils sont.
Peut-être qu'ils sont con.
Autre chose qui...
ouais, moi, je dirais, je vais vous dire, moi, j'ai remarqué ça. Je vous parle un peu comme un vieux crouton. Mais j'ai eu un petit peu l'expérience, c'est pas la même chose, hein, mais un peu l'expérience de ça, lorsqu'il y a eu la guerre des six jours. La guerre des six jours, c'était en 67, j'avais 11 ans. Et les Français adoraient les Israéliens. C'était invraisemblable. Il y a eu un moment, on n'a plus l'idée aujourd'hui. Souvent, je raconte ça à mes enfants, parce que c'était invraisemblable.
Ah oui.
C'était invraisemblable. Moi, j'étais en sixième, et je me souviens, j'étais dans le lycée Henri Poincaré, le grand lycée de la ville où je suis né, à Nancy. En classe, les profs Goy arrêtaient pour écouter les informations. Il disait, et voilà, Moshe Dayan avec l'armée israélienne qui avance dans le Sinaï, c'est incroyable, mais c'est pas possible. Et voilà, les légions égyptiennes qui courent et ils laissent leurs sandales dans le désert, mais on comprend pas qu'est-ce qui est en train de se passer. C'est formidable, franchement, c'est incroyable. Et les petits Français, ils nous disaient à nous, les petits feuches, ah bravo.
Incroyable, ça.
Ah bravo.
Il
y en a qui disent qu'ils ont souffert de l'antisémitisme. Moi, j'ai souffert du philosémitisme parce que moi, j'étais le petit juif, je m'en foutais, franchement. Et les mecs disent bravo.
Là, on n'a pas vécu dans le même siècle.
Je me souviens.
Et les Français sortaient de la guerre d'Algérie, hein?
Ouais, c'est pas mal.
Ils étaient fiers qu'il y avait quelqu'un qui...
qui battait les Arabes.
Voilà.
Les bronzés.
En plus, avec des avions français, ouais, à l'époque.
Grâce à Marcel Dassault. Hein. C'était
ouais. Oui, bien sûr.
Le scout extraordinaire.
Le donc, il y avait des circonstances particulières. Ça n'a pas duré longtemps, ça cet amour.
Mais en 72, je me souviens, j'arrive un lundi matin, 8h15, dans le cirage absolu. Et l'armée israélienne, la nuit, avait pilonné, ils avaient su par leur service secret que depuis le Liban, ils allaient attaquer Israël par des avions. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pilonné dans la nuit tous les aéroports militaires du sud Liban. Donc, tout a été foutu en l'air. J'arrive, les mecs de la classe, les Français, ouais. Bravo Zizek, ah bravo. Ah bon. Allez mec, bravo. Non, ça veut dire, ça, comme tu dis, Béni, ça n'a pas duré longtemps.
Non.
Mais il y a une période invraisemblable. C'était incroyable. Il y avait, c'est Moshe Dayan, c'était Michael Jackson pour les Français.
Ah, tout à fait.
C'était Michael Jackson. Il y avait les chants de l'armée israélienne. C'est Marar, ta 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 ta. Il y avait aussi Acha Mercher. Ouais, mon épouse, elle connaît toutes les paroles, moi je ne connais pas par cœur. Mais c'était les chants de l'armée israélienne de la guerre des six jours, c'était des best-of des Français, quoi. Invraisemblable. Donc tout ça pour dire, peut-être, il est possible. Maintenant, ce que tu dis, c'est juste qu'ils ont maté les rebeux, c'est possible. Mais il est possible. Qui est aussi un dévoilement d'une vérité. Un dévoilement, là, dans, après les plaies, tout le mensonge de l'Égypte s'écroule. Et voir qu'il y a le dévoilement de Dieu et d'une vérité, et que les enfants d'Israël, qui finalement ont quand même, ils ont eu un mérite de c'est pas tous les enfants d'Israël qui étaient attachés au fait d'être Israël. On dit que 4/5 des enfants d'Israël sont morts,
sont restés
pendant Makat Rocher, pendant la plaie de l'obscurité. Donc les enfants d'Israël et Moshe Rabbeinu exprimaient de manière réelle la justice de Dieu. Et ça, peut-être que ça les a, ils ont ressenti ça. Alors, regardons le verset d'après. Vayomer Moshe, Kohamar Hashem, Karatzot Alayla, Ani Yotze Betor Mitzray. Moshe a dit, ainsi a dit l'Éternel, comme à minuit, je sors dans la terre d'Égypte. Umet kol bechor beret mitzrayim, mi bechor paro ayoshev al kiso, al bechor hashifra, asher achar arechayim, ve kol bechor beva. Mourra, tout premier-né dans la terre d'Égypte, du premier-né de Pharaon qui est assis sur son trône, jusqu'au bechor de la servante qui est derrière le moulin, et tous les premiers-nés des animaux. Ok. Alors regardez, je vous suggère qu'on s'arrête là. Bezrat Hashem, la semaine prochaine, on aborde donc la plaie des premiers. C'est bon?
Yes. C'est bon. Merci beaucoup.
Merci. Bonne soirée. Merci. Allez, merci à vous.
Ah, vraiment. Juste une question.